Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité Toulouse pour nous intéresser à un étonnant papier qui s'appelle « La solitude des cathos de gauche toulousains ». C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Emmanuel Riondet.
Bonjour.
Emmanuel, avant d'entrer dans le vif du sujet et de votre article, un mot plus général. Quel rapport peut-il y avoir entre le courant de pensée politique auquel on adhère et la religion à laquelle on croit ? En d'autres termes, que change le fait d'être un catho de gauche ou un catho de droite ?
Pour eux, c'est eux qui l'expriment comme ça. C'est des façons différentes de vivre leur religion. Et moi, les cathos de gauche que j'ai rencontrés, à qui j'ai donné la parole dans cet article, c'est des gens notamment qui mettent en avant leur engagement dans la société. Sur des questions et des causes sociales auprès de migrants, au sein des usines pour les plus âgés d'entre eux. Eux, ils présentent le fait d'être catho de gauche comme une façon de vivre où ils mêlent étroitement leur foi, leurs croyances et leurs pratiques, parce que ce sont des pratiquants, avec leurs engagements au sein de la société, sur des lignes directrices qui sont plutôt celles qu'on attribue au camp de la gauche politique, effectivement.
Dans le cas de Toulouse que vous évoquez, mais plus globalement, quels sont les rapports traditionnels et plus récents entre l'Église catholique et des organisations de gauche ?
Alors, entre l'Église catholique et les organisations de gauche, Constantin, à ces termes-là, il n'y a pas vraiment de rapport. Par contre, à Toulouse comme ailleurs, il y a une histoire de ce qu'on appelle les cathos de gauche, c'est-à-dire ces chrétiens engagés dans les combats dont on vient de parler. Et à Toulouse, il y en a toujours eu. On pourrait même dire que, vu le passé et l'histoire de cette ville, il y en a eu plutôt pas mal au moment de leur âge d'or, c'est-à-dire plutôt dans les années 60-70 notamment. Et ce qu'on a raconté un peu dans ce papier, c'est la survivance de cette époque-là, en repérant quelques personnalités et puis quelques lieux aussi où on rencontre encore des gens à Toulouse qui se disent chrétiens de gauche, mais qui, pour répondre à votre question, se sentent quand même, et ça je ne pense pas que ce soit uniquement toulousain, se sentent quand même plutôt isolés dans le paysage actuel de leur église.
Quelles raisons certains de ces fidèles de gauche, dont Annie que vous avez rencontré, ont-ils pris leur distance, en particulier avec l'archevêché de Toulouse ?
Alors, ils ont pris leur distance avec l'archevêché de Toulouse, avec l'archevêque de Toulouse, qui vient de partir. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a publié cet article, c'est qu'on arrive à un moment où, au sein de l'Église à Toulouse, il se passe un changement important, parce que celui qui est parti, qui est en train de partir, a été là depuis 15 ans, depuis 16 ans, l'archevêque Robert Le Gall. Et il est donc remplacé depuis Guy de Quérimel, qui a été nommé par le Vatican le 9 décembre dernier et qui devrait être intronisé à la fin du mois. Alors Annie Dreuil, qui est donc une des figures des cathos de gauche, pour garder cette expression toulousaine en l'occurrence, c'est une dame qui s'est longtemps occupée de la maison des chômeurs. On parlait tout à l'heure politique, par exemple, lors de notre entretien, elle m'a dit qu'en 2017, elle avait donné son bulletin de vote à Benoît Hamon. C'est quelqu'un qui a mené, fait partie de celles et ceux qui ont mené un combat contre l'archevêque partant, Monseigneur Robert Le Gall, en lui reprochant la tonalité bien trop conservatrice de son exercice épiscopal, et notamment, ça s'était notamment manifesté en 2008, il était lui arrivé en 2005, et ça s'était manifesté en 2008 par le fait qu'il avait nommé un prêtre de l'Opus Dei dans une vieille église toulousaine. Donc voilà, ça lui a vraiment valu une réputation de prêtre conservateur, dont d'ailleurs il se défend, puisque moi, pour cet article, j'ai fait parler le vicaire. Le vicaire, dans un évêché, c'est un peu l'équivalent d'un premier ministre. Et il dit, et je pense que c'est par ailleurs assez vrai, qu'en réalité, Monseigneur Le Gall a parlé à tout le monde, y compris à l'Opus Dei, mais pas que. Et moi, dans ce même papier, j'ai rencontré des gens de l'Action catholique ouvrière qui m'ont confirmé qu'ils étaient aussi adressés à eux. Voilà, en tout cas, le fait qu'il ait nommé quelqu'un de l'Opus Dei, ça lui a valu cette étiquette de conservateur, qu'il a aussi traîné parce que c'était quelqu'un qui venait, c'était un ancien moine, pas un prêtre, donc il avait une pratique qui, du point de vue des cathos de gauche, était assez éloignée des réalités du terrain. Voilà, et donc ils ont mené le combat contre lui jusqu'au point d'envoyer en 2019 un dossier qui dénonçait des dysfonctionnements au sein du diocèse, d'envoyer un dossier à l'annonciature. L'annonciature, c'est l'équivalent de l'ambassade du Vatican à Paris, qui est resté sans réponse par ailleurs. Mais voilà, ça a été pour dénoncer à la fois le conservatisme de cet évêque et aussi des dysfonctionnements au sein du diocèse dont elle ne m'a pas dit beaucoup plus.
Et cette prise de distance, elle a été assez loin, hein, puisque Annie, comme d'autres, pratique l'Eucharistie domestique. En quoi cela consiste-t-il ?
Alors là, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais en gros, c'est l'Eucharistie domestique, c'est qu'elle ne va plus, ou en tout cas très peu, suivre des messes dans les églises, mais elle organise avec des amis et des prêtres amis des cérémonies, des messes, chez elle, à domicile, chez elle ou chez des amis, en petits comités, dans lesquels, a priori, une plus grande place est faite à l'échange entre le prêtre et les quelques fidèles qui sont autour de la table. C'est ce que j'ai compris de ce qu'était une Eucharistie domestique, c'est-à-dire un retour à une espèce de base de la pratique du culte dans un cadre beaucoup moins protocolaire que celui d'une église. C'est comme ça que je l'ai compris. Hein.
Alors, vous l'avez dit, l'archevêque de Toulouse a été remplacé en décembre. Est-ce que son départ peut, selon vous, favoriser les rapports de l'église locale avec les croyants de gauche, ou y a-t-il une fracture plus profonde ?
Là, je pense que la fracture est profonde, mais encore une fois, ça va bien au-delà de la situation toulousaine. C'est-à-dire que là, la fracture, elle est profonde. Tout ce dont on parle depuis le début, sur tout ça, plane l'ombre du rapport Sauvé, qui est sorti, donc dit Sauvé, hein, qui est le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels de l'église, le rapport Chiaz, qui a été rendu public le 5 octobre dernier. Et 10 rapports sauvés du nom de la personne qui le présidait, et qui a révélé donc un nombre tout à fait impressionnant et inattendu d'abus sexuels commis par des religieux au sein de l'Église française ces dernières décennies. Ça a quand même été un vrai coup de tonnerre pour l'Église en général et singulièrement pour l'Église française. Du coup, les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de certains articles, ce qu'ils attendent notamment du nouvel archevêque, c'est que sur ces questions-là, ils prennent des décisions et des positions fermes et claires. Et ce qu'ils attendent aussi, surtout, mais ça va au-delà du rapport Sauvé, c'est qu'un cap soit franchi en termes de co-gouvernance de l'Église avec des laïcs. Ça, c'est une vieille revendication des chrétiens engagés, plus de place pour ceux qui ne sont pas les religieux, en plus de tous les combats qu'ils mènent plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité pour la reconnaissance de la place des femmes, etc. De ce point de vue-là, ils nourrissent pas trop d'espoir dans le nouvel archevêque. Monseigneur Guy de Kerimel, qui donc prendra sa fonction fin janvier, est plutôt réputé un peu moins conservateur que son prédécesseur, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que lui, contrairement à son prédécesseur, il n'a pas été moine, il était prêtre, et donc il a eu des rapports au terrain peut-être un peu plus réguliers que son prédécesseur. Cela dit, Il n'est pas non plus connu pour être une figure de la théologie de la libération, par exemple, ou un prêtre révolutionnaire. Donc, par exemple, Annie Dreuil, dont on parlait tout à l'heure, elle mise assez peu sur un renouveau qui serait porté par ce nouvel archevêque. Alors, cela dit, il n'a pas encore pris ses fonctions et tout le monde attend un peu de voir comment ça va se passer. Voilà. Lui aussi, de toute façon, il sera bien obligé de tenir compte du nouveau climat instauré dans la communauté religieuse catholique en France par le rapport Sauvé.
En dehors d'Annie que vous venez d'évoquer, vous avez rencontré bien sûr d'autres catholiques très impliqués à gauche. Nous invitons nos auditrices et nos auditeurs à le découvrir dans votre papier. D'un mot, Emmanuel, à quoi ressemblent leurs engagements? Comment concilient-ils les deux?
Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça, parce que quand même, ce qui ressort surtout de l'article et de ma rencontre avec ces gens-là, c'est que, c'est quelque chose qu'on a mis dans le papier, on parle un peu des derniers Mohicans, là. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés, ils sont tous autour de 70 ans, voire un peu plus. Il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans cet article, mais que j'ai. Il y en a un que j'ai rencontré, un autre que j'ai eu au téléphone, ils n'ont pas souhaité y apparaître. C'est des prêtres ouvriers. Là, on parle de personnes qui ont 80 ans, voire pour l'un d'entre eux, plus de 90 ans. Et ce qu'ils reconnaissent tous en le regrettant, mais ils le savent et ils le disent, c'est que la relève n'est pas trop là, la relève générationnelle. Eux, c'est des gens qui se sont engagés. La plupart des gens dont je parle dans cet article ont été, par exemple, à la CGT, syndicat à la CGT. Il y en a qui ont été au PCF. Il y en a encore un aujourd'hui qui est prof de LFI. Donc, c'est des gens qui se sont engagés, y compris dans les champs politiques et syndicales, dans des organisations de gauche. Et qui se sont aussi beaucoup, et ça continue là pour le coup, engagés dans le secteur associatif. J'ai rencontré notamment un monsieur qui s'appelle Ferruccio Baggio, 75 ans, qui est actif au sein de l'association Solidarité Migrants à l'église du Sacré-Cœur, qui est un fief historique des chrétiens de gauche à Toulouse, je l'ai rencontré un jour où il faisait de l'accueil de migrants, il leur filait des plans pour aller se loger, se vêtir, etc. Donc c'est ce type d'engagement-là qui ont été toujours très... très présent chez les cathos de gauche. Les prêtres ouvriers, c'était des gens qui travaillaient à l'usine. Moi, j'en ai connu dans d'autres endroits qu'à Toulouse, à l'usine, dans des imprimeries, et voilà. Donc, c'est les engagements de ces personnes-là, pour vous répondre, c'est cela, mais ces personnes-là, elles sont plutôt en fin de parcours. Et ce qu'elles notent, c'est que la relève tarde à venir, et quand elle arrive, et là, c'est encore Ferruccio Baggio que je cite, le monsieur qui est actif à l'église du Sacré-Cœur. Il trouve, lui, et il le regrettait un peu à demi-mot, que les nouvelles générations, elles étaient plutôt intéressées pour discuter de renouveler le culte, ce genre de choses, c'est-à-dire de protocoles et de pratiques au sein de leur pratique dans l'Église, plutôt que de s'engager sur le terrain social. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, alors ça n'a pas été l'enquête du siècle, mais j'ai quand même passé un peu de temps dessus, et à aucun moment, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui avait moins de 60 ans. I don't go to church on Sunday, don't get on my knees and pray, don't read the books of the Bible, got my own special way. Oh, I know Jesus loves me, maybe just a little bit more, and I get on my knees on Sunday, I'd surrender. Makes me feel so good inside. You got to be the chocolate Jesus to keep me satisfied. Et vous parlez donc de ces militants, vous l'écrivez et vous venez de répéter cette expression comme des derniers des Mohicans. Vous avez le sentiment, vous l'avez eu en faisant cette enquête, qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'hier d'être catholique et de gauche? Je pense. Enfin, plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, ils sont minoritaires. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont jamais été majoritaires au sein de l'Église. Mais ils viennent tous d'une génération qui a connu les années 70. Et pour avoir fait parler d'autres personnes qui n'apparaissent pas dans le papier, c'était un moment d'effervescence politique un peu partout dans le monde, de toute façon, mais par exemple à Toulouse, les réunions politiques qui pouvaient réunir des gens qui avaient fait des choix radicaux, y compris, il pouvait aussi y avoir des gens qui venaient de cette branche-là, christianisme de gauche engagé, et qui venaient débattre, porter le fer, discuter, argumenter, mais ils étaient là dans ces débats-là. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que Toulouse a été une des villes où, quand il y a un peu moins d'une dizaine d'années, quand il y a eu la mobilisation des catholiques plus, pour le coup, de droite et plus tradis, contre le mariage pour tous. Toulouse, c'est une ville où ils étaient bien nombreux, et on sait qu'à Toulouse, cette frange-là des catholiques, elle est bien vivace. Donc plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, ils sont clairement plutôt minoritaires et en perte de vitesse.
Un dernier mot, Emmanuel. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé en tant que journaliste à ce thème, et comment avez-vous convaincu Mediacité de son intérêt ?
Alors, je suis intéressé, mais c'est pas tant moi qui convaincu Mediacité, qu'on s'en est convaincu ensemble. Il y avait ce rapport sauvé. Et donc, vu le tremblement de terre, que ça avait constitué à l'échelle nationale, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de regarder comment ça se manifestait à l'échelle de notre territoire, de notre métropole. Et on avait en tête ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une ville où les catholiques de droite avaient su se faire entendre à certaines époques récentes, quand ils avaient le moyen de le faire sur des thématiques d'actualité. Et on avait aussi en tête ce que je vous dis au début, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une ville où il y avait une histoire de gauche importante et dont n'avaient pas été absents les chrétiens. Et on s'est dit qu'on allait aller voir ça, aller voir ce qui restait aujourd'hui des chrétiens de gauche à Toulouse. Est-ce qu'il en existait encore? Ils étaient où? Et qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur le climat actuel? Et on est parti ensemble sur ça, en se disant que ça pouvait être une façon pas mal de rebondir sur le rapport sauvé. Et en plus, on s'est aperçu tout de suite qu'effectivement, l'archevêque qui venait de passer ses ans ici allait céder la main, donc raison de plus. C'était le bon moment pour s'emparer du sujet.
Et cela donne donc cet article très intéressant et très original, La solitude des cathos de gauche toulousains. Il est à retrouver sur le site de Mediacité. Merci beaucoup, Emmanuel Riondet, d'être venu au micro de Podcasting.
Merci à vous pour l'invitation.
C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.